Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Il y a quelques semaines, nous avons consacré un épisode à un petit pays du Caucase, l'Azerbaïdjan. Si vous l'avez écouté, vous vous souvenez peut-être qu'il commençait par une histoire de punaise de lit. Pour ceux qui l'auraient raté, en voici un court résumé. De l'invasion de ces nuisibles en septembre dernier, au risque pesant sur les Jeux Olympiques et Paralympiques cet été, une journaliste de L'Express a découvert que de nombreux comptes sur les réseaux sociaux, liés à l'Azerbaïdjan, participaient à une campagne de déstabilisation de la France. La raison, nous serions trop proches, selon le pays, de son adversaire arménien. Mais vous allez découvrir dans ce nouvel épisode que ce n'est pas le seul État qui tente de nous fragiliser. Loin de là, la Russie et la Chine, elles aussi, multiplient les ingérences contre la France avec une cible bien précise, les Outre-mer. De la Nouvelle-Calédonie à Tahiti, en passant par la Guadeloupe ou la Guyane, Vladimir Poutine et Xi Jinping sont bien décidés à jouer les perturbateurs dans ces territoires éloignés de la métropole. Et vous allez l'entendre, les conséquences pourraient être bien plus graves qu'une simple psychose autour des punaises de lit. Celle qui a mené l'enquête sur ces tentatives de déstabilisation russe et chinoise, vous la connaissez bien, c'est Alexandra Saviana, journaliste au service Société de L'Express. Bonjour Alexandra.
Bonjour Charlotte.
Avant de poursuivre, je vais faire à nouveau référence à notre épisode sur l'Azerbaïdjan. Emma Collet, du service Monde, y évoquait déjà les Outre-mer.
L'Azerbaïdjan a présidé ce mouvement de 2019 jusqu'à fin 2023 et a beaucoup mis l'accent sur le passé colonial de la France. Par exemple, en juillet dernier, la capitale azerbaïdjanaise est devenue la ville hôte d'une première conférence contre le colonialisme à laquelle ont participé plusieurs représentants de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Guyane française, de Martinique et de Guadeloupe.
Alexandra, est-ce que la Russie utilise le même discours dans les Outre-mer ?
Oui, elle s'appuie exactement sur les mêmes ressorts. Contrairement à la France, la Russie affirme n'avoir jamais été une puissance colonisatrice et donc ne pas traiter les Outre-mer comme une colonie. Elle dit « nous allons vous aider », contrairement à la France qui vous laisse pour compte. Et ce sont les mêmes arguments qu'elle utilise en Afrique, comme on en a déjà parlé dans La Loupe.
Tout à fait, dans un épisode sur l'influence russe en Afrique, c'était au début de la guerre en Ukraine. Est-ce que ce message trouve aussi un écho en Outre-mer ?
Alors effectivement, il y a un personnage qui illustre bien ça, qu'on voit parcourir les Outre-mer depuis quelques années et tenir ce discours. Il s'appelle Kémi Séba. C'est un activiste franco-béninois qui se dit panafricaniste. C'est un mouvement qui lutte contre la discrimination raciale et la colonisation, mais qui milite aussi pour unir les Africains et les descendants d'Africains hors d'Afrique, donc dans les Outre-mer, dans les Antilles par exemple. Il est aujourd'hui visé par une procédure de déchéance de nationalité en raison de ses propos qu'il a tenus contre la France. Parce qu'aujourd'hui, dans ses conférences, il dénonce le système colonial de la France au XXIe siècle, appelle les Noirs à se rebeller pour l'indépendance de leur pays, qui n'est donc pas la France. Et il fait même une comparaison lourde de sens. Dernièrement en Guadeloupe, il a dit « Ils sont en train de repeupler la Guadeloupe comme ils ont repeuplé la Palestine. Vous êtes une colonie comme la Palestine.
Ces mots sont très forts en effet. Quels sont ses liens avec la Russie ?
Alors, il a des liens relativement anciens avec Moscou. Dès 2017, on le voit sur une photo à Moscou où il serre la main d'Alexandre Douguine, tout sourire, Douguine étant le très puissant idéologue de Poutine. Sous ce cliché, en légende, il évoque un échange fraternel et ô combien stratégique et il annonce une alliance à venir. Tout ça, c'est pas secret, c'est même public, on le voit toujours sur son compte Facebook. Récemment encore, il était à Moscou, il était l'invité du Forum de la multipolarité, ouvert par Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, en présence de plusieurs éminences grises du Kremlin, dont Douguine ou Constantin Malofev. Alors, il n'est toutefois pas non plus assumé que Moscou le téléguide, mais en 2022, plusieurs médias, dont Jeune Afrique et le quotidien allemand Die Welt, ont révélé documents à l'appui que Kémi Séba avait touché entre mai 2018 et juillet 2019 environ 440 000 dollars depuis des entités téléguidées par Wagner, la fameuse société paramilitaire russe.
Ce personnage, Alexandra, est-ce qu'il est très écouté ?
Alors oui, les conférences de Kémi Séba remplissent des amphithéâtres en Outre-mer. La maire de Cayenne lui a même remis la médaille de la ville. Il s'est fait prendre en photo aux côtés de deux députés de l'Assemblée nationale dans les Outre-mer. Ça, c'est l'aspect très médiatique des ingérences russes, mais ils ont aussi des méthodes beaucoup plus géopolitiques.
Lesquelles ?
Alors, la Russie s'appuie sur des territoires français contestés par d'autres États, notamment des îlots inhabités. Par exemple, ils essaient de pousser Madagascar dans leur revendication des îles éparses. Les îles éparses, ce sont des confettis qui se trouvent entre Madagascar et l'Afrique, dans le canal du Mozambique, c'est à la France. Et pourtant, la Russie n'hésite pas à dire à Madagascar, si vous voulez les récupérer, on peut vous aider. Ils font pareil avec Mayotte et avec les Comores. Récemment, l'ambassadeur russe à Madagascar, qui est aussi en charge des Comores, a par exemple déclaré dans un journal comorien « La Russie a toujours soutenu l'union des Comores dans sa volonté légitime de restituer l'île de Mayotte sous sa souveraineté. Nous considérons cela comme la condition la plus importante pour l'achèvement du processus de décolonisation globale. » Donc c'est vraiment un soutien actif contre la France, c'est une ingérence assumé. C'est assez inédit. C'est la première fois que la Russie s'implique aussi ouvertement contre la France dans ces territoires-là.
Ces méthodes de déstabilisation russe fragilisent donc le lien entre la France et ses outre-mer. Et vous allez l'entendre, elles inspirent la Chine, qui va même encore plus loin, puisqu'elle s'invite jusque dans nos laboratoires de recherche. Alexandra, j'ai avec moi une carte du monde pour comprendre où se joue exactement tout ce que tu nous expliques. On a donc parlé de Mayotte, ici au-dessus de Madagascar, de la Guadeloupe, dans la mer des Caraïbes, et de la Guyane, au nord du Brésil. Est-ce que ce sont les mêmes zones d'influence pour la Chine ?
Alors, pas tout à fait. Dans mon enquête, j'ai pu voir que la Chine se positionnait plutôt un peu plus proche de son territoire à elle, dans le Pacifique, surtout en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie.
Et là aussi, est-ce qu'il est question de colonisation ?
Absolument. Alors, il y a une anecdote assez intéressante qui illustre bien le problème, en fait, que m'a raconté Sylvain Maillard, président du groupe Renaissance à l'Assemblée. Il s'est rendu à Nouméa en février. Lors de ce voyage, il a rencontré le président indépendantiste du Congrès, le Parlement calédonien, qui lui a tenu un discours assez étrange. Rokwamitan lui a dit « Les Chinois ne nous ont jamais colonisés, contrairement aux Français. » Les Calédoniens descendent en partie des Mélanésiens, qui descendent en partie des Austronésiens, qui proviennent des Chinois. Donc je suis, comme tous les Kanaks, 75% Papou et 25% Chinois. Ce sont des mots évidemment très forts, parce qu'il estime aussi que les forces françaises présentes en Nouvelle-Calédonie, l'armée, font du territoire une cible dans le Pacifique. Et donc là, on voit qu'il y a vraiment un lien assez trouble qui est en train de se nouer entre les indépendantistes et la Chine, parce que le FLNKS, le parti de Rokwamitan, a aussi des relations avec le pays.
Tu nous rappelles ce que c'est le FLNKS ?
C'est le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste. C'est un rassemblement de partis indépendantistes qui date de 1984. Et fait très intéressant, le FLNKS fait partie du groupe mélanésien Fer de Lance. C'est un groupe qui rassemble des États du Pacifique et qui est sous influence chinoise. Son siège au Vanuatu a notamment été financé par Pékin. C'est un un groupe qui a contesté le résultat du troisième référendum d'indépendance en Nouvelle-Calédonie, qui date de 2021. Ses membres se sont entendus pour adresser une réclamation à la Cour internationale de justice. Cette réclamation, elle doit permettre de maintenir la Nouvelle-Calédonie sur la liste des pays à décoloniser selon l'ONU, à décoloniser donc de l'influence française. Mmh. Une organisation comme celle-ci, soutenue par la Chine, qui prend à partie un État, c'est là encore très rare.
Et qu'en est-il en Polynésie ?
Alors, les ressorts sont à peu près les mêmes. Pékin utilise la méfiance à l'égard de Paris générée par le passé colonial, mais aussi les essais nucléaires qui ont eu lieu dans la zone entre 1966 et 1996. Le consul de Chine à Papeete y est d'ailleurs très influent, déjà parce qu'il y a un consul, ce qui n'est pas le cas en Nouvelle-Calédonie. Il fait tout ce qu'il peut pour mettre en valeur les bonnes relations de la Chine avec la Polynésie, donc il organise des dîners, des conférences qu'il tente même de faire diffuser à la télé chinoise. Et il y a aussi un institut Confucius. C'est un institut culturel, un organe clé de la propagande chinoise à l'étranger, qui est installée en Polynésie, dans son université même d'ailleurs, depuis 2013. Et il y a également une grande diaspora chinoise qui explique d'ailleurs la présence de ce consul.
Et ce discours chinois en Polynésie, il fonctionne ?
Alors oui, déjà parce que c'est un personnage important du territoire, tout le monde veut un peu faire partie de son cercle. Et je te cite d'ailleurs un spécialiste. « La Polynésie et la France sont un couple où l'un des deux partenaires menace régulièrement de quitter l'autre pour aller dans les bras d'un amant plus offrant. Et l'amant, c'est la Chine. »
Est-ce que la Chine utilise d'autres arguments pour séduire la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie ?
Alors, il y a évidemment des arguments économiques. En octobre 2017, l'ambassadeur de Chine en France avait multiplié les promesses dans le cas où la Nouvelle-Calédonie deviendrait indépendante, car un référendum devait avoir lieu l'année d'après. Mmh. Un élu local avait d'ailleurs raconté à l'époque, c'était dans Le Monde, que l'ambassadeur demandait de quoi nous avions besoin, tourisme, aquaculture, tout ce qui était susceptible d'intéresser, les Chinois le proposaient. Alors, il n'y a pas d'investissement chinois assumé en Nouvelle-Calédonie, mais l'industrie minière est aujourd'hui en difficulté. Donc les indépendantistes font courir le bruit que Pékin pourrait racheter une usine très importante dans le nord du pays. Le FLNKS fait aussi en sorte de privilégier la Chine dans ses exportations de nickel, sur lequel repose toute l'économie de la Nouvelle-Calédonie. En Polynésie, c'est différent parce qu'elle passe davantage par des partenariats scientifiques.
Quel type de partenariat scientifique ?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Polynésie, l'autonomie du territoire est très grande. La recherche, c'est le dernier domaine non régalien qui est aux mains de Paris. Mmh. Et c'est aussi là-bas que se trouvent certains des laboratoires les plus pointus au monde, notamment en biologie marine. Les propositions de partenariat entre gros guillemets avec la Chine sont assez régulières. En novembre 2022, par exemple, la Shanghai Ocean University a offert ses services à Mouréa, qui est un laboratoire sur place, pour étudier un des récifs coralliens les plus connus au monde. Il y avait un autre partenariat qui visait aussi à financer un satellite météo. En fait, la mise en place d'une antenne pour un satellite météo. Alors ça, ça a l'air assez bénin, mais ça attire la méfiance des services français qui voient une manière de faire de l'espionnage, de récolter des informations auprès des universitaires qui sont peu méfiants parce qu'au nom de la liberté de la recherche, ils acceptent parfois ces partenariats.
On le voit, les méthodes de la Chine sont un peu différentes des méthodes russes.
Oui, et pour comprendre pourquoi, on va pouvoir faire référence à notre épisode de La Loupe qui a été diffusé il y a peu de temps. Il s'appelait « Bataille navale dans le Pacifique ».
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Alexandra, tu évoques l'épisode sur la nouvelle guerre dans le Pacifique. C'était avec Axel Gilden du service Monde de l'Express. Il nous expliquait la guerre d'influence que se livrent les États-Unis et la Chine. La Chine qui d'ailleurs s'intéresse aux micro-États de la région.
Oui, et entretenir des relations avec nos Outre-mer, c'est pour la Chine encore une fois une question d'influence dans le Pacifique. Mmh. Il y a un scandale qui illustre bien ça. Un entrepreneur chinois, en 2015, a fait une proposition pour transformer un atoll perdu en immense ferme aquacole. Et ça a alerté au plus haut niveau. parce que c'est l'endroit où la France faisait ses essais nucléaires, et il y a donc sur cet atoll une immense piste d'atterrissage. Si ce projet avait eu lieu, on aurait offert une belle place militaire en plein milieu du Pacifique à Pékin. Même Macron en a parlé et il s'en est inquiété.
Et je vous le dis avec clarté, ici c'est la Polynésie, mais ici c'est la France. Et vous serez protégés. Je vois parfois des projets, oserais-je dire, exotiques, aventureux, aux financements incertains, aux créations d'emplois improbables, avec d'étranges investisseurs. Méfiez-vous, c'est pas une bonne idée.
Cette présence chinoise dans nos outre-mer du Pacifique, est-ce qu'elle a uniquement un but militaire ?
Alors non, il y a aussi un intérêt diplomatique. Comme vous l'avez déjà expliqué, les États-Unis s'y placent militairement de manière importante. Et face aux États-Unis, la Chine a besoin du soutien des États de toute la zone, tout simplement parce qu'il y a une bataille aujourd'hui autour de Taïwan. La Chine veut récupérer Taïwan et cette petite île est, elle, reconnue diplomatiquement par beaucoup d'États ou l'a été par le passé. Plus la Chine étend son influence et plus Taïwan perd des alliés. Et ensuite, économiquement, Pékin considère que la mer de Chine lui appartient. Elle voudrait interdire la circulation de bateaux, notamment français, dans la zone. Il y a déjà eu des incidents, des accrochages entre des bateaux occidentaux et les autorités chinoises. Et il y a la question des ressources, donc on a déjà parlé du nickel. Il y a aussi la question des hydrocarbures et des minerais, notamment dans les endroits où il y a des coraux, comme à Moorea, par exemple. Et c'est le cas pour tous les Outre-mer. En Guyane, beaucoup de ressources forestières ou minières. Les Outre-mer, ce sont aussi 10 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives sur tous les continents, ce qui est aussi intéressant pour la Chine.
Des ressources qui, j'imagine, intéressent aussi la Russie.
Alors oui, bien sûr, mais pour la Russie, la question est avant tout géopolitique. Comme en Afrique, il s'agit de présenter la France comme un État néocolonial afin de se poser un allié des pays du Sud global. Les territoires ultramarins, c'est tout de même 2,2 millions d'habitants qui peuvent soutenir la position de Moscou, notamment dans la guerre en Ukraine.
Alexandra, que fait l'État français face à tout cela ?
Alors, la France tente de protéger au maximum les ressources naturelles, les espaces maritimes et les coraux, et de garder un lien avec ses outre-mer. Cette déstabilisation inquiète beaucoup Paris, qui a bien conscience que la France doit aussi imposer sa présence dans l'Indo-Pacifique. Si jamais nous n'avons pas le soutien des populations locales, car elles sont par exemple du côté de la Chine, ça va forcément poser un problème militaire à terme. On a besoin d'y être stratégiquement et on ne peut pas se permettre d'avoir des perturbateurs dans ce jeu-là. Alors, Paris tente de se rassurer. Depuis le Covid, notamment, il n'y a plus les fameuses associations d'amitié sino-néo-calédonienne ou sino-polynésienne qui inquiétaient à l'époque. Mais ça ne veut pas dire que ça s'est tout à fait arrêté et il ne faut pas être dupe parce que la Chine est dans une stratégie de jeu de go, me disait une spécialiste, c'est-à-dire une stratégie de long terme, pion à pion, d'infiltration. Quand Paris pense comme une démocratie à 5 ou 10 ans, la Chine pense sur un temps beaucoup plus long, elle pense à 50 ans en avant, ce qui peut lui permettre d'avancer beaucoup plus masqué et beaucoup plus lentement.
Des ingérences en Outre-mer à surveiller pendant encore longtemps donc. Merci Alexandra d'être venue nous raconter ton enquête.
À bientôt.
Alexandra Saviana, journaliste au service Société de l'Express. Si les grandes enquêtes vous plaisent, chers auditeurs, il y en a de nombreuses à découvrir sur l'express.fr. Profitez-en, l'abonnement numérique est en ce moment au prix d'€1 le premier mois. Et je vous rappelle que La Loupe, c'est un nouvel épisode du lundi au vendredi dès 6h du matin. Alors pour ne rien rater, pensez à nous suivre sur votre application d'écoute de podcast préférée comme Apple Podcast, Spotify ou Castbox. Cet épisode a été monté par Léa Bertrand et réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.